Eh bien, encore l'Épître aux Hébreux, chapitre 1. Je mentionne brièvement la citation qu'on trouve dans verset 10 à verset 12, une citation de psaume 102. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais toi, tu demeures. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau. Ils seront changés comme un vêtement, mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront pas. Maintenant, dans le contexte de l'Ancien Testament, ces paroles sont adressées tout simplement à Dieu. Mais ici, ces paroles sont adressées, en effet, à Jésus-Christ. Il n'y a pas de typologie davidique, rien comme cela. Ça fait partie du fait, tout simplement, que dans le Nouveau Testament, si on accepte déjà les évidences du Nouveau Testament que le Christ est à la fois homme et Dieu, donc ce qui est présenté comme étant vrai en ce qui concerne Dieu doit être aussi vrai en ce qui concerne son Fils. C'est si simple que cela. Dans ce cas, probablement, ce verset a été choisi parce que déjà dans l'introduction, le fait que cette révélation en Jésus-Christ était l'agent de Dieu dans la formation du monde. Il a établi l'héritier de toutes choses et c'est par lui qu'il a fait les mondes. Fait penser l'auteur à ce passage, « Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et ce donc qui est présenté comme l'acte de l'Éternel est aussi à la fois l'acte de Jésus-Christ. C'est si simple que cela. » Finalement, dans chapitre 1, psaume 110, cité dans Hébreux chapitre 1, verset 13. « Et auquel des anges a-t-il jamais dit, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. » Dans le Nouveau Testament, le chapitre de l'Ancien Testament, le plus souvent cité, c'est psaume 110. Plus souvent qu'Ésaïe 53, le plus souvent cité, c'est psaume 110. Je vais prendre le temps de le lire maintenant, mais quand même, nous y reviendrons plus tard, parce que la citation de psaume 110 a une importance suprême dans chapitre 7. 110 de David, psaume. Oracle de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein de dévouement au jour où tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. À toi la rosée de ta jeunesse. L'Éternel l'a juré et ne le regrettera pas. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchizédek. Le Seigneur est à ta droite. Il écrase des rois au jour de sa colère. Il exerce le jugement parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Il écrase le chef d'un vaste pays. En chemin, il boit au torrent. C'est pourquoi il relève la tête. Eh bien, nous avons à ce point à remarquer seulement que c'est le roi de Sion qui est en vue. L'oracle de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Maintenant, si ce psaume a été écrit par David, et nous lisons de David. Psaume. Oracle de l'Éternel à mon Seigneur, qui est le Seigneur de David. Si ce psaume avait été écrit par quelqu'un dans le cours, un fils de Corée, donc on comprendrait ce verset, oracle de l'Éternel à mon Seigneur, l'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. On comprendrait que le psaumiste s'adresse au roi Davidique, peut-être à David lui-même. Mais si c'est David lui-même qui écrit le psaume, qui, pour lui, est le Seigneur? Et ce n'est pas l'Éternel, parce que c'est l'oracle de l'Éternel à mon Seigneur. C'est pour cette raison que bien des personnes, à travers l'histoire juive et à travers l'histoire chrétienne, pensent que c'est un psaume messianique, c'est-à-dire David lui-même s'adresse à son héritage, sa descendance, son Seigneur. Mais quand même, nous reviendrons à ce point. Nous reviendrons à ce point parce qu'il y a une importance suprême en ce qui concerne la compréhension de ce psaume vis-à-vis Matthieu 22 et parallèle en Marc et aussi Hébreux chapitre 7. Pour nous, si c'est le Messie qui est en vue, donc l'usage dans Hébreux chapitre 1 verset 13 est assez clair. Encore une fois, c'est l'Éternel qui parle, en effet, au Messie, c'est-à-dire au roi davidique ultime. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Encore une fois, donc, une prophétie qui touche la nature du royaume de Dieu par l'agent davidique, par le roi davidique. Eh bien, c'est tout ce qu'on va faire avec l'Épître aux Hébreux chapitre 1. Y a-t-il des questions à ce point avant d'aborder chapitre 3 et 4? On ne peut pas tout faire, on ne va pas toucher chapitre 2. Mais on va commencer maintenant avec chapitre 3 et 4. Y a-t-il de questions ou de commentaires? L'auteur de l'Épître aux Hébreux cite toujours soit la Septante, soit quelque chose comme la Septante, en effet. C'est-à-dire, il ne cite pas l'hébreu. Et de temps en temps, la signification, le sens de la Septante n'est pas pareil à l'hébreu. Comment donc comprendre ces passages? Je préfère revenir à deux ou trois instants de cela dans chapitre 11. C'est une bonne question, mais j'y reviendrai dans chapitre 11 si je peux attendre jusqu'à ce point. Eh bien, chapitre 3 et chapitre 4. Si j'avais le temps, je mentionnerai Moïse, qui se trouve dans verset 1 à verset 6, chapitre 3, verset 1 à verset 6, des allusions, des comparaisons, mais maintenant je n'ai pas le temps, nous allons reprendre le texte à verset 7. Verset 6, Christ agit comme fils sur sa maison, pas tout simplement serviteur, comme Moïse, qui était fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, mais Christ l'est comme, c'est-à-dire l'est, il est fidèle lui-même aussi, comme un fils sur sa maison. Nous sommes sa maison si nous retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance de l'espérance dont nous nous glorifions. Verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et virent mes œuvres pendant 40 ans. C'est pourquoi je fus indigné contre cette génération, et je dis, leur cœur s'égare toujours, et n'ont pas connu mes voies. J'ai donc juré dans ma colère, ils n'entreront certainement pas dans mon repos. Prenez donc garde, frères, que personne parmi vous n'ait un cœur méchant et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous avons été rendus participants du Christ si du moins nous retenons fermement jusqu'à la fin notre assurance première, pendant qu'il est dit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » Quels furent, en effet, ceux qui provoquèrent Dieu après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Et contre qui fut-il indigné 40 ans durant, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, si ce n'est à ceux qui avaient désobéi? Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Maintenant, l'argument continue dans chapitre 4, mais à cette étape de l'argument, l'usage de l'Ancien Testament est assez clair. C'est un usage moral, une espèce de comparaison. Les Juifs qui sont sortis d'Égypte, un grand pourcentage de ces Juifs ne sont pas entrés dans le pays promis. De même, il dit, soyez certains que vous qui avez bien commencé, soyez certains que vous persévérez jusqu'à la fin, autrement vous pouvez tomber à côté, de même façon que les Juifs de l'Ancien Testament. Ça, c'est l'argument. Il y a un autre passage dans le Nouveau Testament où on trouve à peu près la même chose. Qu'est-ce que c'est? À peu près le même argument. 1 Corinthiens 10, c'est ça. 1 Corinthiens 10, verset 1 à verset 13, où l'exemple des Juifs au temps de la révolte, l'apôtre Paul l'utilise pour donner des avertissements pour avertir les chrétiens à Corinthe. Maintenant, il y a plusieurs choses qu'il faut remarquer avant de continuer plus loin dans le texte, parce que dans chapitre 4, il y a tout un autre argument qui s'avance. À ce point, c'est tout simplement une argumentation morale. Aujourd'hui, notez bien ce mot, aujourd'hui, verset 7, si vous entendez sa voix. Et ce mot revient dans verset 15. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix. Et ensuite, le mot revient encore. Verset 7 de chapitre 4. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant bien longtemps après, par la bouche de David, comme il a été dit plus haut, aujourd'hui. Bon, examinons brièvement Psaume 95. Psaume 95. Allons, acclamez l'Éternel, lançons une joyeuse clameur vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui pour le célébrer. Avec des psaumes, lançons vers lui une joyeuse clameur, car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui, la mer est à lui, c'est lui qui l'a faite, la terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous, courbons-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel qui nous a fait, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Meriba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, bien qu'ils aient vu mon action. Pendant 40 ans, j'eus cette génération en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Eh bien, ce psaume est divisé en deux. Les premiers versets nous exhortent à célébrer l'Éternel parce qu'il est le Créateur, parce qu'il est le Roi, parce que nous lui devons toutes choses. Deuxième partie, deuxième division du psaume, en effet, c'est un avertissement. Si nous ne célébrons pas l'Éternel, si nous essayons de le mettre à côté, si nous le rejetons comme les Juifs dans le désert, à Meriba, à Massa, donc il pourrait lui aussi nous rejeter. Il pourrait nous tenir en dégoût. Il pourrait nous dire aussi, « Je jurai dans ma colère, ils n'en feront pas dans mon repos. » Eh bien, c'est évident que ce psaume a été écrit après les événements du désert. Autrement, ce psaume ne pourrait pas faire référence à ces événements. Le psaume ne pourrait pas faire référence à Meriba et à Massa. Et donc, il y a un autre jour, un autre aujourd'hui, où c'était possible d'entrer dans le repos de l'Éternel, malgré le fait que les Juifs étaient déjà dans le pays promis. Donc, entrer dans le pays promis ne peut pas signaler entrer dans le repos complet. Autrement, il n'y aura pas de place pour psaume 95. Mais ça fait portion de l'argumentation dans chapitre 4 de l'Épître aux Hébreux. À ce point, quand même, il y a seulement cet avertissement. Il faut persévérer. Maintenant, remarquons surtout verset 6 d'Hébreux, chapitre 3, et verset 14, verset 6. Nous sommes sa maison si nous retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance et l'espérance dont nous nous glorifions. Verset 14. Car nous avons été rendus participants du Christ, si du moins nous retenons fermement jusqu'à la fin notre assurance première. Ce sont des passages remarquables. Souvent, quand j'enseigne le texte grec de l'Épître aux Hébreux à mes étudiants à Trinity Evangelical Divinity School, ils veulent passer immédiatement à chapitre 6 et à chapitre 10 pour décider si un chrétien peut perdre son salut ou non. Mais je leur dis chaque fois, avant d'étudier chapitre 6, il faut étudier chapitre 1 et 2. Et 3, et 4, et 5. Avant de lire chapitre 6, il faut lire chapitre 3. Maintenant, tout le monde sait que l'Épître aux Hébreux souligne l'importance de persévérance. Nous allons voir que c'est un grand thème, par exemple, dans chapitre 11. Les lecteurs sont en danger d'abandonner la foi qu'ils avaient, la croissance chrétienne qu'ils avaient déjà manifestée. Mais notez bien ce que disent ces versets, surtout verset 14, mais aussi verset 6. Verset 14. Nous avons été rendus participants du Christ, si du moins nous retenons fermement jusqu'à la fin notre assurance première. C'est-à-dire l'évidence que nous avons été rendus participants du Christ, c'est la persévérance. Et il y a bien des passages dans le Nouveau Testament qui enseignent à peu près la même chose. Par exemple, 1 Jean chapitre 2, verset 18 et verset 19. « Jeunes enfants, c'est l'heure dernière. Comme vous avez entendu qu'un antichrist venait, voici qu'il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est l'heure dernière. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais de la sorte, il est manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Notez bien, ces antichrists étaient des personnes baptisées, autant qu'on puisse le comprendre, des chrétiens, membres de l'assemblée, acceptés comme des frères en Christ, mais j'en dis qu'ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Il ne dit pas ils ont perdu maintenant leur salut. Il dit plutôt que ces personnes ne sont pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. C'est-à-dire, l'évidence de la vraie foi dans ce sens, c'est la persévérance. C'est remarquable, c'est un passage remarquable. On trouve à peu près les mêmes en face dans plusieurs passages du Nouveau Testament. Par exemple, Colossiens, chapitre 1, versets 21 à 23. « Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saints, sans défaut et sans reproche, si vraiment vous demeurez dans la foi. » Fondé et établi pour ne pas être emporté loin de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Encore la persévérance. Ou, Marc chapitre 4, dans l'enseignement de Jésus, chapitre de parabole. Marc chapitre 4. La parabole du semeur. Et dans l'explication, l'exposition que donne Jésus lui-même, ce qu'il entend par sa propre parabole, il dit, verset 16, « Et de même, ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux, ce sont ceux qui entendent la parole et la reçoivent aussitôt avec joie. Mais, ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ce sont les âmes d'un moment. Et dès que suivent la tribulation ou la persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. C'est-à-dire, les endroits pierreux aux Palestins sont des endroits avec seulement un peu de soil, de terre, oui. Et la semence, donc, réchauffe le plus vite dans cette terre parce que cette terre n'est pas bien épaisse. Et après un petit bout de temps, quand même, les premières pluies cessent et les secondes pluies n'ont pas encore commencé. Et donc, les racines cherchent de l'eau, touchent tout simplement les pierres. Et ces plantes, cette semence qui promettait d'être les meilleures parce que cette semence était réchauffée le plus vite et donc promettait le plus, en fin de compte, il ne produit rien. Et Jésus dit que cette semence, c'est comme les personnes qui reçoivent la parole avec joie. On dirait qu'ils sont les meilleurs convertis, ceux qui se convertissent la plus vite, avec la plus grande promesse. Mais ces convertis ne durent pas. À mon avis, dans le monde évangélique, souvent nous avons une théologie de conversion trop simple. Je n'ai aucun doute, je n'ai aucun doute que dans la compréhension de Dieu, quelqu'un est sauvé ou non, un des deux. Je n'ai aucun doute que dans la pensée de Dieu, il sait, de notre point de vue, lui qui habite l'éternité, il sait exactement quand, dans notre suite de temps, quand nous sommes sauvés. Je n'ai aucun doute. Mais nous qui connaissons, en fin de compte, seulement ce que nous pouvons voir à l'extérieur, nous ne pouvons pas lire le cœur. Et il y a des personnes qui, apparemment, se convertissent, qui sont baptisées, qui sont membres de l'Église, mais comme ceux qui deviennent antichrist dans le temps de Jean qui écrit 1 Jean, ils sortent de chez nous. Et ça prouve qu'ils n'étaient jamais des nôtres. Wow! Certainement, il y a une place dans le Nouveau Testament pour des chrétiens qui se trompent, qui tombent dans le péché et qui reculent un petit peu. Oui. Et ça ne touche pas la question des enfants de familles chrétiennes qui acceptent le Seigneur dans leur cœur quand ils sont tout jeunes. Peut-être ils ne comprennent pas grand-chose, mais ça fait partie de leur culture familiale quasiment. Et ensuite, un peu plus tard, ils rejettent tous et ils deviennent véritablement chrétiens à l'âge de 26 ans ou 35 ou quoi que ce soit. Ça ne touche pas ces questions du tout. Ça touche plutôt la nature de la conversion. La vraie conversion, par définition, persévère. Par définition, Hébreux chapitre 3, verset 6, Hébreux chapitre 3, verset 14. Et ça, c'est le point aussi d'un Corinthiens chapitre, de Colossiens chapitre 1. Verset 22 et verset 23, de cette portion de la parabole du semeur, d'un Jean chapitre 2, verset 19, et bien d'autres passages, c'est celui qui persévère jusqu'à la fin qui sera sauvé. Maintenant, sans doute, nous persévérons par la grâce, mais la preuve, quand même, de vraie foi, c'est la persévérance. Ce n'est pas la profondeur de cette persévérance même, ou la profondeur de notre compréhension, mais tout simplement la réalité de persévérer en Jésus-Christ. Et donc, si quelqu'un vient me voir, il commence à avoir de doutes dans la vie chrétienne, j'ai toujours une liste de questions à lui poser. Quand as-tu cessé de prier? Quand as-tu partagé ta foi avec quelqu'un d'autre? Avec qui est-ce que tu te couches à ce moment? Oh, je pose toujours ces questions. Toujours. Parce que des fois, le doute, en fin de compte, arrive à cause de péché dans la vie. Et si la personne est véritablement chrétienne? Peut-être immédiatement, peut-être un peu plus tard, cette personne va se repentir et retournera à Jésus-Christ avec repentance et foi. Un chrétien peut tomber, oui, je le sais. Nous sommes tous encore pécheurs. Simul justus et peccator. Justifié sans doute, mais quand même pécheur encore jusqu'à la fin. Mais si quelqu'un se présente comme chrétien et tourne à côté et ne revient jamais, pourquoi penser que c'était la vraie semence, même au début? Parce que selon 1 Jean, il n'était jamais des nôtres. Autrement, il ne serait pas sorti. Ou, dans Hébreux chapitre 3, verset 14, nous avons été... Nous avons été rendus participants en Christ jusqu'à la fin, si du moins nous retenons fermement jusqu'à la fin notre assurance première. La vraie foi continue. Et là, le modèle de l'Ancien Testament est important, parce que les Juifs, pour ainsi dire, étaient sauvés de l'Égypte, mais n'étaient pas encore entrés dans le pays promis. Ils étaient sauvés de quelque chose, mais pas encore à quelque chose. De même, notre conversion peut être un peu comme cela. Des fois, on rencontre des personnes qui sont tellement gênées de leur vie, qui trouvent dans l'Évangile quelque chose de belle, quelque chose d'intéressant, quelque chose de puissant. Et les chrétiens, après tout, dans une bonne assemblée, sont de bons types, hein? C'est un plaisir de les connaître et de se réjouir avec eux. Peut-être pas dans votre assemblée, mais dans plusieurs assemblées, ça marche comme cela, n'est-ce pas? Et donc, ils se repentissent, ils deviennent, autant qu'on puisse voir, des chrétiens. Ils sont baptisés, peuvent devenir diacres dans l'assemblée, de temps en temps même, un pasteur. Et malgré le fait qu'ils ont reçu beaucoup de grâce, comme la semence, qui est tombé dans la terre qui se réchauffait le plus au début, avec beaucoup de promesses. En fin de compte, ils n'ont pas reçu la grâce de persévérance. Je connais des personnes qui ont largement abandonné leur péché public. Mais après un petit bout de temps, ils ont aussi abandonné le Christ, comme les Juifs au temps de la révolte. Ils avaient quitté l'Égypte et l'esclavage, mais ils ne sont jamais entrés dans le pays promis. Nécessairement, ça exige le discernement parmi les pasteurs, parmi les leaders de l'Église, et des fois, nous nous trompons. Il faut l'admettre. Des fois, ça prend le temps pour discerner qui est sauvé et qui ne l'est pas, qui est véritablement chrétien et qui ne l'est pas. Mais quand même, il ne faut pas mettre à la marge ces versets. La marge? Mettre aux marges. Mettre en marge ces versets. Parce que l'insistance du Nouveau Testament, presque par chaque écrivain, souligne à maintes reprises l'importance de la persévérance. La persévérance est tellement soulignée, c'est une caractéristique de la vraie foi. On ne peut pas le mettre à la marge. On ne peut pas le mettre en marge. De côté. Eh bien. Y a-t-il des questions du point de vue théologique ou de l'usage de l'Ancien Testament à cet égard, avant d'examiner de près l'usage beaucoup plus difficile et beaucoup plus intéressant dans quelques perspectives dans chapitre 4? Oui, c'est une bonne question. Sur quoi est basée l'assurance du salut? Ça, c'est la question. Et chez les réformateurs, les réformateurs n'étaient pas complètement en concurrence sur cette question. Pour Luther, la vraie foi mène l'assurance. Si nous n'avons pas l'assurance, c'est parce que nous ne reposons pas notre foi suffisamment, avec suffisamment de clarté en Jésus-Christ. Ce que nous avons besoin, ce dont nous avons besoin, c'est une meilleure compréhension de l'Évangile afin que notre foi soit véritablement basée sur Jésus et Jésus seul. Jésus crucifié, ressuscité d'entre les morts, notre substitut, et donc la base de notre assurance. Mais Calvin allait un peu plus loin. Calvin dit que c'est Jésus-Christ lui-même et ses promesses, les promesses de l'Évangile, qui nous donnent l'assurance centrale, mais en plus, il y a deux autres choses qui sont attachées à cet Évangile, cette assurance. Premièrement, le témoin du Saint-Esprit, surtout Romains chapitre 8, verset 15. Et deuxièmement, un changement de conduite. Il ne voulait pas dire par cela que nos bonnes œuvres nous sauvent, pas Calvin, après tout. Mais que la vraie foi, nécessairement, mène avec la foi le fruit. Après tout, Jésus lui-même insiste que nous allons les reconnaître par leurs fruits. Donc, si quelqu'un s'avance vers l'autel dans une grande assemblée d'évangélisation et apparemment reçoit Jésus comme son sauveur personnel, et cette formule, on ne trouve pas dans le Nouveau Testament, mais on va l'accepter ici. S'ils acceptent Jésus comme leur sauveur personnel et ils se disent chrétiens, mais leur vie n'est pas changée. Est-ce qu'ils sont chrétiens? Pas selon le Seigneur Jésus lui-même, pas selon les exigences de l'apôtre Paul. La vraie foi change la conduite. Et si quelqu'un commence avec un changement de vie, mais retourne vivement à leur péché, est-ce que c'est un cas comme la semence parmi les pierres dans la parole du semeur? Ou est-ce que c'est un cas d'un chrétien encore pas bien discipliné, pas bien enseigné? C'est un vrai chrétien, mais il va grandir, ça prendra encore plus de temps. Oh, ça dépend. Je ne peux pas dire d'avance. Hein? Mais quand même, il faut prendre soin que quand quelqu'un s'approche de nous pour nous poser la question « Quoi faire avec mes doutes? » Il faut reconnaître que les doutes ont bien de sources différentes. Par exemple, des fois le doute arrive parce que on n'a pas assez de sommeil. Si nous sommes des étudiants à l'université, peut-être nous avons une vocation davantage et nous jouons sur une équipe de quoi que ce soit, puis il y a toujours des réunions avec nos copains pour prendre une glace, un verre de soit bière, soit Coke Diet, je m'en fiche. Et en fin de compte, on essaie de vivre avec 4 heures de sommeil par nuit. Après un petit bout de temps, nous devenons tellement fatigués que la chose la plus spirituelle du monde qu'on pourrait faire, c'est dormir. Pas prier, dormir. Et des fois, le doute se base sur l'ignorance. Tout simplement l'ignorance. Quand j'étais pasteur d'une église à Vancouver, nous avions dans notre assemblée peut-être une centaine de jeunes à l'université ou justement après l'université. Et dans ce groupe, il y avait une jeune fille avec le nom de Peggy. Peggy. Si on mettait 99 de nos jeunes à un bout de la chambre et Peggy à l'autre bout de la chambre, 95% de l'énergie du groupe serait à côté de Peggy. Elle était étudiante à l'Université de la Colombie-Britannique et elle ne pouvait pas penser d'une façon linéaire du tout. Hein? C'est une bonne chose qu'elle ne voulait pas devenir ingénieure. Elle travaille dans les beaux-arts, j'oublie lesquels. Mais elle avait une foi vive en ce qui concerne Jésus-Christ. Elle témoignait tout le temps, pleine d'énergie, courageuse et souvent sage. Et elle est venue me voir un jour, puis elle m'a dit qu'il y avait un jeune homme qui était, je ne sais pas, ingénieur ou quoi que ce soit, qui voulait mieux la connaître pour apprendre un peu mieux le christianisme. Il jouait du football, et ça c'est du football américain. Hein? Il était grand, il était linéaire, exactement le contraste de Peggy. Fred, son nom. Et j'ai dit à Peggy, prends garde. Garde ton cœur, hein? Puis elle a dit, oh non, moi je ne veux pas sortir avec lui, je veux tout simplement lui donner mon témoignage et conduire vers le Seigneur. Il pose de bonnes questions. Peggy. Puis en fin de compte, je lui ai dit, eh bien, sors avec lui, donne ton témoignage et amène-le me voir. Je veux le rencontrer. Autrement, ne sors pas avec lui. Samedi soir, 10h30 le soir, je n'étais pas marié dans ces temps. Je travaillais tard le soir dans mon bureau à l'église. Tac, 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 tac. Peggy entre avec ce jeune homme que je n'avais pas à ce point rencontré, Fred. Hi, this is Fred. He wants to meet you. Ceci est Fred. Il veut te rencontrer. Je pouvais voir immédiatement qu'il ne voulait pas me rencontrer. J'étais tout simplement la barrière entre lui et Peggy. Mais nous sommes sortis à un petit restaurant pour une tasse de café. On jasait pour 2 heures. Il ne savait presque rien, il connaissait presque rien, mais posait des petites questions en ce qui concerne le christianisme et ça finissait là. Samedi prochain, 10h30, tac, 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 tac. Les deux étaient sortis encore une fois voir une revue ou le ciné, je ne sais pas quoi. Ils sont venus me voir. Cette fois, quand nous sommes sortis au restaurant, il avait une liste de questions. On a jasé, on a causé, jusqu'à 2h du matin. Et je lui ai donné une liste de choses à lire, des articles, 2-3 livres. J'ai essayé de répondre à ses questions. Hein. Samedi prochain, tac, 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 tac. Il avait tout lu, ce que j'avais demandé, ce que j'avais exigé. Je lui avais dit, ne reviens pas me voir avant d'avoir lu ces choses. Il est revenu. Il avait tout lu, toute une autre liste de questions. On a causé jusqu'à 2h du matin. Ce que ces réunions faisaient à mes sermons à travers ces semaines, je n'ai aucune idée. Mais ça continuait pour 13 semaines. À la fin de 13 semaines, jusqu'à 2h du matin, chaque dimanche matin, il a dit, « Eh bien, je vais devenir chrétien. » Et il est devenu chrétien. Il est aujourd'hui diacre d'une église. Il ne connaissait rien. Rien. Ses doutes étaient basés sur son ignorance. Et avec l'information et le travail de l'Esprit de Dieu dans son cœur, il est devenu chrétien par cette manière. Mais non, il faut que je l'avoue, les personnes que j'ai conduites à l'Éternel, en réalité, sont pas beaucoup comme Fred. Mais il était tellement ignorant, tellement linéaire dans sa façon de penser que quand il avait les informations, franchement, l'Esprit a travaillé dans son cœur, il a dit « je veux devenir chrétien ». Oh, ils sont mariés en plus. Et aujourd'hui, c'est un homme mûr et saint, un bon père, un bon mari, véritablement changé par l'Évangile. Dans son cas, ses doutes étaient basés sur l'ignorance, pas une manque de sommeil, l'ignorance. des fois, le doute est basé sur une décision morale. Nous voulons être libres dans notre sexualité, par exemple. Donc, nous rejetons toute autorité qui contredit cette liberté. Ou des fois, le doute est basé non pas sur une décision morale fondamentale, mais sur 10 000 décisions. On décide de ne pas lire la parole aujourd'hui. On décide de garder la bouche et donc on ne témoigne pas. On décide de ne pas prier avec quelqu'un, de ne pas assister à quelqu'un, à une telle et telle réunion. On décide de chercher toujours l'argent et le pouvoir. On décide. Et un jour, on se lève debout, on se regarde dans le miroir et on dit, franchement, je ne crois pas toute cette folerie. Et on n'a jamais pris une décision fondamentale. On a pris 10 000 décisions, des petites décisions, curieuses, méchantes, indépendantes. Il y a une autre dizaine de causes de doute. Et donc, le remède de doute, ça dépend de la nature de ce doute. Si le doute est basé sur un manque de sommeil, le remède est assez clair. Si c'est basé sur l'ignorance, le remède est aussi clair. Si c'est basé sur une faillite morale, le remède est assez clair. Et des fois, il y a une quinzaine de causes. Hein? Dans le cas de Thomas, c'est ce qu'on dit? Ou Thomas? Thomas, dans Jean chapitre 20, la cause de son doute, c'est en réalité le fait qu'il était tellement déçu. Et il ne voulait pas être déçu de nouveau. Il pensait que Jésus était le Messie. Maintenant, le Messie était mort. Penser qu'il était encore vivant, c'est une fausse espérance, là. Donc, il a exigé des preuves pour démontrer que la personne qui, apparemment, selon les autres apôtres, était le soi-disant Seigneur ressuscité, était véritablement le Seigneur qu'on a mis dans le tombeau. Pas un jumeau, par exemple. Pas une apparition, mais la même personne. Eh bien, du point de vue pastoral, si nous donnons l'assurance, si nous voulons encourager quelqu'un dans l'assurance, si quelqu'un vient me voir, il n'a pas l'assurance parce que, franchement, il ne comprend vraiment pas bien l'Évangile. Et il a des doutes parce qu'il ne se sent pas suffisamment bon. Il essaie, mais il se trouve dans la tentation et il ne voit pas assez de fruits pour être certain, pour être convaincu qu'il avait déjà été sauvé. À ce point, il faut donner le remède de la croix, le remède de la nature du salut. Il faut lui dire, en effet, « Tu penses que tu n'es pas suffisamment bon? Franchement, je vais te dire, mon frère, que tu es beaucoup plus méchant que tu penses. » J'ai dit ça souvent. Si tu veux avoir l'espérance et la foi et l'assurance et tout cela parce que tu es mieux que les autres, parce que tu as tellement grandi dans le Seigneur, tu te trouveras toujours dans le doute. Le plus que tu deviens saint, le plus que tu vas trouver la souillure et le péché dans ta vie. Le plus qu'on s'approche de la lumière, le plus qu'on voit la saleté, n'est-ce pas? Et ça va être comme ça jusqu'à la fin, jusqu'à la consommation. Il faut retourner à la croix. Mais si, par contre, quelqu'un manque d'assurance parce qu'il se couche avec l'épouse de son ami, je ne vais pas lui dire, eh bien, retourne à la croix. Je vais lui dire, repens. Donc, il faut donner le bon remède pour une telle et telle maladie. C'est pour ça que l'appel du pasteur est un appel non pas tout simplement à apprendre ce que dit la Bible, mais comment faire application juste et exacte. C'est le cure des âmes. Oui, c'est une bonne question et la réponse est un peu compliquée, il me semble. Parce que sur tout ce côté-ci de la réforme, de la grande réforme, nous faisons souvent une distinction entre la justification et la sanctification. C'est-à-dire, la justification a lieu une fois au début de notre vie chrétienne. Dieu nous déclare juste à cause de la mort de Jésus-Christ qui a payé notre dette. Mais la sanctification, dans cette compréhension, c'est un processus, n'est-ce pas? On s'approche de la sainteté. C'est le même mot. Sanctification, saint, sainteté. Soit en hébreu, kadosh, soit en grec, hagios. C'est le même mot. C'est le même mot. Mais même les réformateurs ont remarqué qu'il y a bien des passages où ce mot-clé, saint, sanctification, les mots semblables, être sanctifié, le verbe, ne parle pas de processus, ne parle pas d'expérience, ne parle pas de croissance, mais ce qu'on appelle la sanctification positionnelle, ou la sanctification déclarative. Dans un sens, nous sommes déjà mis à part à Dieu. Dans ce sens, nous sommes déjà saints. Donc, par exemple, les premiers versets de Corinthiens. Paul, appelé à être apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Christ Jésus, appelés à être saints. Maintenant, ils sont déjà sanctifiés. Cette Église, avec ceux qui ne sont pas certains en ce qui concerne la résurrection, avec un homme dans l'Église qui se couche avec sa belle-mère ou avec sa stepmother, sa... Oui. Et avec des divisions dans l'assemblée, avec des disputations et l'orgueil en ce qui concerne les dons, mais ils sont sanctifiés. L'idée, c'est que ils ont été déjà mis à part. Ils sont sanctifiés dans ce sens positionnel. Dans ce sens, chaque chrétien, chaque véritable chrétien est saint. Mais quand même, nous sommes appelés à devenir saints. Et des fois, la doctrine de la sanctification se trouve dans le Nouveau Testament sans le mot sanctification. Par exemple, Philippiens chapitre 3. Ou même l'apôtre Paul lui-même veut oublier ses réussites. Il veut oublier sa passée pour suivre de près le but d'être conforme à Jésus-Christ. Mais il n'utilise pas dans ce passage, Philippiens chapitre 3, le mot sanctification, mais ce que nous trouvons dans ce passage, c'est l'idée de sanctification qu'on trouve assez souvent chez les réformateurs. Mais souvent, quand Paul utilise le mot sanctification, il parle en réalité de la sanctification positionnelle. Maintenant, dans ce sens, je suis bien content si les chrétiens parlent l'un à l'autre en disant en effet frère saint ou sœur sainte ou les saints en Jésus-Christ à l'église à Paris ou Genève, ça ne fait rien. Les saints en Jésus-Christ. Pourvu que ça ne signale pas pour eux qu'ils sont tous parfaitement saints dans leurs expériences. Et donc, on est toujours sage d'essayer d'utiliser tous les termes qui sont appliqués aux chrétiens dans la Bible, dans le sens qu'ils sont utilisés dans la Bible. Si on utilise seulement quelques-uns de ces termes, ou on les utilise d'une façon pas mal changé de l'utilisation qu'on trouve dans la parole. Oui, ça peut ébranler un petit peu notre théologie, notre compréhension de soi. Et oui, vous avez raison, sans doute. Mais quand même, je ne voudrais pas commencer avec le mot saint pour nous dire que je n'ai pas besoin maintenant de reconnaître que je suis encore pécheur. Ça manquerait pas mal le point de l'apôtre Paul. Est-ce que ça aide un peu? Oui? Eh bien, une pause de 5 minutes.